mentions. Je note quand même que beaucoup de choses que j'ai dites, déjà, mais qui sont des vérités, ont été reprises par d'autres groupes. Donc, ça prouve que ce sont des vérités incontournables qui s'imposent à tout le monde. Avant de répondre, je voudrais, et vous comprendrez, rendre un hommage particulier à la directrice et au personnel de la CEMA, qui font un travail formidable dans des conditions difficiles. Et je ne sais pas que le débat de ce soir, avec les solutions qui ont été esquissées ici ou là et dont on va parler dans un instant, puisse laisser croire que la CEMI s'est fichue. Ce n'est pas le cas. M. Palman parlait de déficit. Il n'y a pas de déficit pour l'instant. Il y a un problème de fonds propres, de trésorerie, mais il n'y a pas de déficit d'exploitation. Non, vous avez parlé de déficit. J'ai tout noté, effectivement. Déficit permanent, vous avez dit. Déficit permanent. Pas du tout de déficit permanent. Et au contraire, il y a des résultats insuffisants. Il y a du bénéfice, mais c'est insuffisant pour consolider le fonds propre. Donc je vais reprendre un peu les détails en répondant à chacun. Monsieur Palmade, je note que vous avez parlé davantage de l'OPH que de la CEMI. Ici, j'ai chronométré. Chronométré, vous avez parlé 30% plus de l'OPH que de la CEMI elle-même. Et quand vous avez parlé de la CEMI, vous avez repris tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire le nombre de logements, les problèmes de vacances, les problèmes de payer, les problèmes de... d'impôts fonciers, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Avec même des erreurs. Quand vous avez parlé des PLS, vous avez affirmé une chose qui est fausse. Parce que les PLS, c'est le logement étudiant. Ça n'a rien à voir. En grande partie. En grande partie. Donc, le commentaire ne s'applique pas. En fait, c'est pas grave. Globalement, on est tous d'accord, il y a quand même un problème qu'il faut qu'on évoque ensemble. Si le débat a lieu ce soir, c'est pour que justement, on essaie d'éclairer le chemin de la CEMI pour l'avenir. Vous dites, je reviens tout à l'heure, que la solution, c'est le rapprochement avec l'OPH. Vous avez parlé des résultats de l'OPH. J'ai aussi regardé le bilan de l'OPH. Il est intéressant de regarder quel est le résultat cœur du métier. C'est-à-dire loyer et charges locatives liées à la gestion des loyers. Beaucoup de résultats de l'OPH sont liés aux plus-values réalisées sur les ventes et sur les subventions reçues. Mais tant mieux, c'est vrai que les résultats sont depuis quelques années, tout à fait différents. Ceci étant, quand vous parlez rapprochement, il faut quand même voir ce que ça peut dire. Vous avez dit rapprochement, optimisation, après vous avez dit oui, le personnel de la CEMI n'a pas de souci à se faire parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir en retraite à l'OPH, etc. Bon, ce sont des choses que l'on pourrait être amené à voir. Croyez bien qu'on n'est pas resté les bras croisés depuis de longs mois. Pas rester les marques croisées depuis de longs mois, que nous avons eu des contacts avec d'autres, cité Chronologie, bien sûr qu'on a discuté pendant plusieurs mois avec Chronologie. On pourrait parler d'autres opérateurs, on pourrait parler de la VRS, Anita, on peut parler d'autres opérateurs qui ont aujourd'hui compétences nationales. Il y a beaucoup qui sont intéressés par 1200 logements sur la ville de Tarbes. Beaucoup. Le problème, c'est que le rapprochement, et le seul qui l'a évoqué, c'est M. Montoya, qui a dit qu'il faudrait d'abord modifier la structure juridique de la CEMI pour qu'elle puisse faire ensuite opérer un rapprochement avec l'OPH. Oui, parce qu'avec le statut juridique qui est laissé aujourd'hui, c'est impossible. Tout dépend de ce qu'on entend par rapprochement. Si par rapprochement on entend, la CEMI reste comme elle reste propriétaire de ses logements, et elle passe une convention de gestion de longue durée avec l'OPH, auquel cas, le problème juridique ne se pose plus. Pardon?
Oui, c'est facile à dire que faire.
Parce qu'au sein de la CEI, et je vous rappelle, la mairie ne détient que 57,9% du capital. Le reste sont des actionnaires privés, des banques, la Caisse des dépôts, etc. Donc ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Il est évident que le rapprochement avec une société d'HLM est bien plus facile qu'avec l'OPH, c'est évident. Donc, quand on parle de rapprochement, il faut voir les modalités. Convention de gestion, absorption, fusion. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent se poser. Vous avez dit également, M. Padman, que la CEI n'était plus en état de construire. Et c'est délibérément que nous avons décidé d'arrêter de construire. C'est délibérément. On a dit, on fait la dernière opération, ça dit c'est qui. Et vu le taux de vacances sur l'agglomération, on arrête de construire. On a terminé avec les logements dont on était propriétaire étranger, qu'on a entièrement rénové, c'est magnifique. Mais c'est délibérément. Si on veut, on peut continuer à s'endetter. Monsieur Lagonel vous a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'endettement a diminué par rapport à ce qu'il était auparavant. On pourrait continuer à s'endetter pour construire de nouveau. Mais je ne pense pas qu'il y ait une solution. Je ne pense pas. Parce que là, tout le monde a parlé de la vacance. Quand même, on va faire la mémoire. Le taux de vacance sur l'agglomération tarbaise en 2009, on va dire sur la ville de Tarbes, je compare la ville de Tarbes. En 2009, le taux de vacance sur la ville de Tarbes était de 13,8%. Tout confondu. Opérateur privé, opérateur public, propriétaire privé. 13,8%. Est-ce que vous savez à combien s'élevait le taux de vacance en 1999, 10 ans avant? 13%. En 10 ans, il a augmenté de 0,8. Donc, je veux dire que le problème de la vacance, elle n'est pas un problème récent. C'est un problème qui existe depuis 20 ans. 20 ans. Et encore, grâce à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, nous avons réussi à résorber la vacance, Madame Argonnaise, de près de 500 logements du patrimoine privé insalubre en centre-ville, grâce au SOPH. Imaginez, si vous n'avez pas suivi les OPH, il y aurait 500 logements plus qui n'auraient pas été rénovés. Donc, je reviens aux remarques qui ont été présentées par chacun. Vous avez parlé, M. Alman également, des loyers trop élevés par rapport au marché, ainsi que M. Montoya d'ailleurs. Mais moi, je tiens à vous dire que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Les loyers de la CEI ne sont pas plus élevés. C'est moi qui vous explique. Ne sont pas plus élevés que les autres opérateurs. Par contre, en effet, il y a des loyers sur certains logements anciens, et notamment en Bel Air, qui sont plus élevés que d'autres logements qui sont offerts à la location aujourd'hui. Sauf que les logements qui ont été construits à Bel Air dans les années 60-70 sont des logements dont la surface est bien plus importante que les logements construits aujourd'hui. Et si on rapporte le prix du loyer à la surface louée, eh bien, les logements, y compris sur Bel Air, sont même plutôt inférieurs. Donc, c'est pas un critère. De même, le vieillissement du patrimoine. Le vieillissement du patrimoine n'est pas, c'est pas tout à fait exact. Nous avons un patrimoine dont la durée, le taux de vieillissement est de 22,6 ans. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La moyenne nationale est de 26 ans, 25,7. Donc on est plutôt mieux que la moyenne nationale. Et si on extrait de ce patrimoine, pour calculer le vieillissement du patrimoine, si on extrait Bel Air, on tombe en dessous de 20 ans. Ce qui veut dire que donc la politique et la stratégie de la CENI au cours des 20 dernières années a été plutôt positive. Vous l'avez d'ailleurs vu, quand j'ai cité les montants des immobilisations, l'évolution des constructions par rapport aux années antérieures, M. Lagonel a repris également. Monsieur Lagonel, je dirai après les instructions. Vous dites, bon, on n'est pas au conseil d'administration, je suis désolé, c'est comme ça. Pour être au conseil d'administration, il faut être actionnaire, puis il faut être élu par l'Assemblée générale. On a déjà invité M. Montana à titre d'auditeur libre, pour qu'il voit qu'on n'avait absolument rien à cacher, c'était une demande qui était formulée depuis la précédente mandature par le Front de Gauche, donc j'ai accepté qu'il vienne en auditeur libre, et d'ailleurs, ça ne l'empêche pas de poser une question au conseil d'administration de l'Assemblée générale, et il lui a répondu, je crois, sans problème. Vous dites il ne faut pas que ce soit le contribuable tardé qui soit appelé. Bon, je voudrais vous rappeler quand même que sur un budget de 100 millions d'euros de la ville de Tarbes, les recettes fiscales représentent 25 millions. Donc il ne faut pas mettre un contribuable tardé à toute sauce. Il n'est pas appelé à tout le contribuable. Pas appelé à tout. Il faut que vous sachiez que nous dégageons en effet une marge d'autofinancement significative grâce aux produits de nos activités. Je ne manquerai pas de vous le rappeler quand on parlera du budget 2015. Alors, vous direz, ah oui, c'est peut-être pas le contribuable, mais c'est l'utilisateur, le client, entre guillemets. Oui, bon, si les prix pratiqués sont normaux, il n'y a rien de choquant. Plus personne ne pourrait à redire quand le contribuable est appelé pour ouvrir. Les déficits de fonctionnement des tâches. C'est le service que nous rendons à la population. Après, le déficit des tâches est de l'ordre de 400-700 000 euros par établissement. C'est le contribuable qui est pour le réforme. Bon, d'accord. Ensuite, je suis d'accord avec vous, il faut trouver des solutions pérennes. Ah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je veux dire que nous, il y a au moins 2 ans que nous travaillons. Avec nos administrateurs, avec des conseillers, avec des partenaires potentiels, nous discutons pour essayer de trouver des solutions pérennes, y compris le PH. Nous discutons aussi avec le PH, je ne vous cache pas, même si entre nous, là, j'avoue, ça ne m'enchante pas beaucoup de signer une convention de partenariat avec le président de l'OPH actuel. Franchement, ça me, quelque part, ça m'a fait les concours. Mais bon, l'intérêt général prévaut par rapport aux inimitiés particulières. Le problème, je vais répondre à M. Montoya aussi, et après, je vais évoquer quelques sujets. M. Montoya, vous dites qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été commises par la CENI. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1995. Depuis 1995, je l'ai dit tout à l'heure en lisant les rapports de la BNOS, mais honnêtement, on ne peut pas, mais je me refuse en tout cas, moi jeter la pierre à qui que ce soit. Je ne sais pas pourquoi c'est la CENI qui a construit le club de Pirelles, tout le monde le sait, parce que la mairie ne pouvait plus emprunter. Bon, alors, je ne veux pas parler de ça. Vous croyez que c'était une décision stratégique plutôt pertinente, ça, à l'époque? Non. Bon, je suis d'accord avec vous, mais moi j'y reviens. Ça m'intéresse pas. L'entretien est une variable d'ajustement, oui. C'était aussi dans le rapport de la Minos, quand j'ai lu les rapports de 95 et 99. C'était exactement le propos de la. C'est vrai. Alors, remplir les logements vides, ça, oui, c'est une solution de bon sens. C'est une solution de bon sens. Sauf que. C'est une décision stratégique et politique qui n'est pas neutre. Parce que, imaginons qu'on ait 100 logements disponibles et qu'on dise, bon, ben, écoutez, au lieu de faire payer un loyer de 400 et quelques euros, on va faire ça, un loyer de 300 euros. Et tous ceux qui sont dans le même ensemble immobilier vont demander que les loyers soient ajustés sur les loyers des autres. Et c'est logique. Donc, c'est pas simple à mettre en œuvre. Ça peut se faire, mais ça implique une analyse des conséquences, pardon. Oui, ça implique une réflexion sérieuse, c'est pas simple. Alors, Il faut une solution publique, dit M. Montoya. Il faut une solution publique. Je comprends que ça vous ennuierait qu'on trouve une solution privée. Sauf que la CENI, c'est une société de droit privé. Et que pour trouver une solution publique, on revient au débat au sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, il faut d'abord, comme vous l'avez fort pertinemment évoqué vous-même, il faut revoir la structure juridique de la CENI. Alors, quel est le problème? C'est une société anonyme de droit privé, avec des partenaires privés, qui détiennent un peu plus de 40% du capital. Avec une valeur nette comptable de nos constructions qui représente 43 millions d'euros. J'ai plus en tête le bilan en 2013. Mais avec une valeur réelle de ce patrimoine de 85 millions d'euros. Ah ! Alors là, quand on dit ça, on voit que ça pose un gros problème. Nous avons fait procéder à une évaluation patrimoine de la CENI par des hommes de l'art. Tous les immeubles ont été évalués, tous les appartements ont été évalués. Calculé d'ailleurs le ratio entre 1238 logements, 85 millions divisés par 1238, il fait là qu'on arrive à un prix moyen de 64 000 euros par logement, 64 000, je crois, de mémoire, ce qui démontre la vraisemblance du chiffre qui nous a été annoncé. Vous voyez aujourd'hui dire à l'OPH, Monsieur Fala, on est d'accord, on fait un rapprochement avec vous, mais notre valeur comptable, c'est 6 400 000 euros, et en réalité, elle est valide 40 millions. Comment vous faites pour payer 46 millions? Tout le monde comprend que c'est impossible. C'est impossible. Comment les actionnaires privés qui ont des droits sur les actifs immobiliers à travers leur participation, vont accepter demain que des actifs qui valent 85 millions soient cédés à 42 millions, c'est-à-dire à leur nette comptable. Pardon ? Mais M. Lagonel, dans les 42 millions, il y a la dette déjà, les 38 millions. Et quand je dis qu'il y a 42 millions d'actifs et 38 millions de dettes, on réévalue les actifs pour arriver à 85 de plus de 40 millions, la dette est toujours la même. Il y a bien une plus-value de fonds propres de 40 millions. Ah oui, vous pouvez faire ça, c'est comme ça. Sur la
valorisation.
Non, mais ça, ça nous est discuté sur la valorisation. Moi, je crois qu'ici, il y a un problème de principe qui n'est pas simple à régler. C'est pour ça que peut-être qu'avant de trouver des solutions de ce type, il faudra essayer de voir. On va poursuivre nos discussions avec les sociétés qui sont intéressées par la CENI-ENA, qui sont prêtes à payer plus que 6 400 000 euros, mais pas avec une plus-value de 40 millions. Je crois savoir, je suis pas mal, que l'OPH est prêt à payer 3 millions. Alors là, excusez-moi, c'est impossible. C'est impossible. Mais tant que ce n'est pas l'intéressé qui me l'a dit, je ne sais pas, et cela a été communiqué par un établissement financier qui est en relation avec nos deux organismes. Mais peut-être qu'il y a une autre solution, parce que pour nous, le vrai problème, c'est pas que la CENI continue à fonctionner. Je suis président de la Fédération des entreprises publiques locales de la commission immobilière. La commission immobilière, c'est la réunion de 500 SEM immobilières de France et d'outre-mer. Et donc, je vois tout. Je vois des scènes avec des milliers et des milliers de logements, et je vois des petites scènes avec 600 logements qui s'en tirent. Donc, le problème de la taille, pour moi, ça l'étonne. Le problème de la taille des 230 logements, ça l'étonne. Mais ce n'est pas le problème rédhibitoire. Il y a des scènes avec 600 logements qui s'en tirent très bien. Pardon ? Parce que ? Oui, bon, d'accord. Oui. Bon, il y a peut-être une autre solution, c'est de voir ce qui va se passer avec une nouvelle opération de rénovation urbaine. On nous annonce une nouvelle opération de rénovation urbaine. Nous avons les territoires, c'est pas mal, vous savez mieux que quiconque, de Bel Air, de Lormont, de Mouissé, etc., qui sont inscrits pour l'instant dans des territoires qui demain seraient éventuellement éligibles dans le cadre d'une nouvelle opération de rénovation urbaine. Les choses devraient se décanter d'ici la fin de l'année et on devrait y voir un peu plus clair. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle revue? Comment va-t-elle fonctionner? De quels moyens va-t-elle disposer? Et comment pourrons-nous, nous ici, disposer de ces moyens si on décide de procéder éventuellement à une démolition de Bel Air comme on l'a fait à Lobadère pour construire des logements qui sont plus avec 5 ou 7 étages sans ascenseur, ou procéder à des réhabilitations lourdes, construire des ascenseurs dans la structure actuelle, c'est impossible. C'est impossible. Techniquement, c'est pas possible. Bon, d'après les techniciens, moi j'y connais rien. Mais en tout cas, la solution de voir comment nous pourrions nous intégrer dans le cadre d'une nouvelle opération de rénovation urbaine est une solution qu'il faudra creuser. Je n'exclus pas les autres. Je vous ai dit, je n'ai pas attendu ces débats pour discuter avec plusieurs opérateurs, y compris au PH, pour en venir aussi. Voilà, je suis sûr que vous le dire. N'est-ce pas, M. Pannin? Voilà, ça n'étonne pas. Donc, néanmoins, la CMI est un outil municipal. C'est un outil municipal. Et la ville de Tarbes tient à la CMI. Elle tient à la CMI. Et donc, si elle l'accompagne comme elle le fait aujourd'hui, c'est parce qu'elle y tient. Et nous verrons demain quelles seront les meilleures solutions pour préserver la qualité de l'offre de logement sur la ville, pour préserver l'emploi de la CMI, pour préserver l'engagement de la ville de Tarbes sur le logement social. Nous verrons tout cela. Moi, je trouve que les échanges que nous venons d'effectuer ensemble sont plutôt positifs. En tout cas, ils vont contribuer à enrichir notre réflexion. La directrice de la CMI est ici. S'il y a des questions plus précises, elle pourra y répondre, mais vous comprendrez que je suis convaincu que, comme moi, elle a apprécié qualité du débat et qualité des remarques qui ont été formulées sans aucun esprit de polémique. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?